Laudetur Jesus Christus.
La guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada franchit un nouveau palier. Donald Trump annonce ce mardi vouloir porter à 50% et dès demain les droits de douane sur l'acier et l'aluminium de son voisin. Nous y revenons en détail au début de ce journal. L'ancien président philippin Rodrigo Duterte en route pour La Haye, la Cour pénale internationale. Arrêté ce matin, il est accusé de crimes contre l'humanité pour avoir fait tuer des milliers de personnes dans sa lutte contre le narcotrafic. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur les tensions en Serbie qui se poursuivent entre le gouvernement et les étudiants. Et puis, à un mois des élections au Gabon, nous entendrons un évêque qui se réjouit que le pays puisse sortir bientôt de la phase de transition après le coup d'État militaire.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir et commençons par les dernières nouvelles du pape François, toujours hospitalisé à la clinique Gemelli. Le pronostic vital, vous le savez, a été levé hier par les médecins en raison de l'amélioration de sa santé. Le pape va mieux et son humeur est bonne, selon des sources vaticanes, même si son cadre clinique reste complexe, car sa double pneumonie n'est pas terminée. Ce matin comme hier, a annoncé la salle de presse du Saint-Siège, François a suivi à distance les exercices spirituels de carême de la Curie qui se tiennent dans la salle Paul VI du Vatican, là où vient tout juste de débuter la récitation d'un nouveau chapelet pour prier pour son rétablissement. Toutes ces informations sont bien sûr à retrouver à une seule adresse, vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, la guerre commerciale qui se durcit donc entre les États-Unis et le Canada. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les tensions étaient déjà fortes entre les deux voisins. Elles le sont encore plus ce mardi, Marine Henriot, puisque Donald Trump, sur son réseau social, a annoncé la hausse de 50% des droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien. Et cela dès demain.
Oui Olivier, finalement ce n'est pas les 25% de droits de douane comme annoncé auparavant, mais bien 50%. L'explication, l'annonce hier de la province canadienne de l'Ontario d'imposer une surtaxe sur les exportations d'électricité aux États-Unis. La réaction du président américain ne s'est pas fait attendre et celui-ci est même allé plus loin cet après-midi. Il annonce aussi des taxes douanières sur les voitures pour mettre à l'arrêt, dit-il, définitivement l'industrie automobile du Canada. Voilà de quoi souhaiter la bienvenue au futur Premier ministre canadien, Mark Carney. Il a pris dimanche soir la tête du Parti libéral et compte bien répliquer face à Donald Trump que les Américains ne s'y trompent pas. Dans le commerce comme au hockey, le Canada gagnera, a-t-il déclaré. Alors au-delà des propos belliqueux, vous le savez Olivier, ces deux économies sont interconnectées et selon de nombreux économistes, cette guerre commerciale ne peut faire que des perdants côté Canada qui pourrait entrer en récession, mais également côté américain. Les consommateurs seraient les premières victimes des hausses de prix. Par exemple, rien que pour l'industrie automobile, il faut savoir qu'actuellement, les pièces de voiture peuvent traverser plusieurs fois la frontière dans le cycle de construction. Eh bien, l'arrivée de droits de douane peut ainsi gripper toute la chaîne d'approvisionnement.
Marine Henriot, merci beaucoup. Et autre attaque de Donald Trump envers le Canada cet après-midi. Il a une nouvelle fois estimé que, l'unique chose censée que peut faire le Canada est, je cite, de devenir le 51e État américain. Dans les annonces choc aussi de l'administration américaine, les coupes qui se font ressentir, notamment celles visant l'USAID, l'Agence de développement américaine. Hier, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a annoncé que 83% des programmes de l'agence allaient être supprimés. Une catastrophe pour de nombreux acteurs humanitaires ou médicaux. Ainsi, l'aide à la lutte contre la tuberculose, dont les États-Unis étaient jusqu'ici les principaux financeurs, pourrait être menacée. Le Groenland est aux urnes ce mardi. Une terre également convoitée par le président américain et qui est sous souveraineté danoise, rappelons-le, les élections législatives qui pourraient renforcer le sentiment d'indépendance déjà très fort dans cette île de l'océan Arctique. Au moins 6 morts dans de nouveaux bombardements russes aujourd'hui dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, sur un plan diplomatique. Alors que la guerre continue, les premières discussions entre hauts responsables américains et ukrainiens en vue d'une trêve se sont ouvertes ce matin sous l'égide de l'Arabie Saoudite dans la ville de Jeddah. Peu d'informations infiltrées pour l'instant, les Ukrainiens qui doivent proposer notamment un plan de trêve en mer et dans les airs. Depuis les Nations Unies, la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a elle dénoncé le règne de la force et les nombreuses attaques contre le droit international à travers le monde. Kaya Kallas qui a rappelé en particulier le ferme soutien de l'Union européenne pour une paix juste et durable en Ukraine. Aux Philippines, l'ancien président Rodrigo Duterte a arrêté ce matin à l'aéroport de Manille en application d'un mandat de la Cour pénale internationale. L'ancien homme fort de l'archipel, qui fut président de 2016 à 2022, est accusé de crimes contre l'humanité, en particulier pour sa guerre sans merci contre le narcotrafic. La correspondante régionale de Suzanne Duroy.
Rodrigo Duterte, ancien président des Philippines de 2016 à 2022, a été arrêté aujourd'hui à l'aéroport de Manille. La Cour pénale internationale enquêtait sur lui depuis 2018. Il est soupçonné de crimes contre l'humanité. Lors de sa présidence, l'homme, connu pour sa grande brutalité, avait mené des opérations anti-drogue d'une extrême violence. Selon la Cour pénale internationale, des dizaines de milliers de personnes auraient été tuées dans des circonstances parfois mystérieuses, sans toujours avoir de preuves concluantes de liens avec la drogue. Très populaire aux Philippines, l'ancien président est d'ailleurs toujours en lice pour le poste de maire de la ville de Davao. Selon son avocat, il a embarqué cet après-midi dans un avion direction La Haye, siège de la Cour pénale internationale. À Taipei, Suzanne Duroy pour Radio Vatican.
Et à Manille, des fidèles se sont retrouvés dans plusieurs églises de la ville pour prier afin que l'ancien président philippin paye pour ses crimes. Des familles pauvres, notamment, le plus souvent, qui attendent que justice soit faite. Israël annonce la libération prochaine de 5 détenus libanais dans le cadre de la trêve avec le Hezbollah qui avait été conclue le 27 novembre dernier. Décision qui s'est faite en marge d'une réunion au Liban avec les pays médiateurs de ce cessez-le-feu, la France et les États-Unis. Israël et le Liban qui doivent par ailleurs engager des négociations sur la frontière terrestre, apprend-on par ailleurs toujours de sources israéliennes. Plusieurs combattants du Hezbollah ont été tués ce mardi dans une nouvelle frappe israélienne dans le sud Liban. Le divorce se consomme toujours un peu plus en Serbie entre les étudiants et le régime. Hier soir, des étudiants ont encerclé la RTS, la radio-télévision de Serbie, l'un des principaux organes de communication du président Aleksandar Vučić. Les journalistes et employés de ce média semblent eux-mêmes très divisés sur l'attitude à tenir. Les précisions à Belgrade de notre correspondant Laurent Rouy.
Depuis le début des protestations en novembre, la télévision nationale, la RTS, a été critiquée pour la partialité de sa couverture. Elle est ostensiblement en faveur du régime du président Aleksandar Vučić, même si une place non négligeable est dédiée aux manifestations étudiantes. Mais lundi, une journaliste de cette chaîne a employé le mot « horde » pour parler des étudiants qui ont réagi par un blocage de la chaîne hier soir. La police est rapidement entrée de force dans le bâtiment, causant un blessé dans ses propres rangs, sans entamer la détermination des manifestants. Depuis, le président Vučić a accusé des « hordes bolchevico-plénumières », en référence au mouvement étudiant, d'avoir attaqué le policier. Ce matin, des employés de la télévision se sont joints aux manifestants. Ils demandent à leurs collègues de sortir du bâtiment. Le principal syndicat de la RTS a aussi exigé de sa direction la démission d'un rédacteur en chef pro-régime et l'impartialité des informations diffusées à l'antenne. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
L'information vient de tomber en Roumanie. La Cour constitutionnelle rejette l'appel du candidat d'extrême droite à la présidentielle, Calin Georgescu, qui est donc définitivement exclu de la course. C'est ce que rapportent des médias roumains. Direction le Gabon, où la commission électorale a communiqué la liste des candidats retenus pour la présidentielle prévue le 12 avril prochain. 4 noms ont été retenus sur 23 prétendants, parmi lesquels le général Oli Nguema, qui préside la transition. Ce scrutin marquera un retour vers le fonctionnement normal des institutions étatiques. En tout cas, c'est l'espoir de Mgr Mathieu Madega. Il est l'évêque de Mouya et a participé à l'élaboration de la nouvelle constitution gabonaise.
L'espoir, c'est déjà de sortir de la transition. Organiser ces élections, c'est retourner au fonctionnement ordinaire des institutions. Rien que le fait de sortir de la transition, ça crée bien sûr une espèce d'espoir, mais avec beaucoup d'attente. Il faudra l'engagement, la détermination, quelle que soit la personne élue, que cette élection puisse appeler tous les Gabonaises et Gabonaises à prendre leur destin en main, à se savoir important devant Dieu et devant les hommes et qu'ils jouent bien leur partition. L'Église accueille avec joie toutes les candidatures et bien sûr, y compris celle du général et bien sûr, en priant et pour lui et pour les autres candidats et pour toute la nation pour que l'élection se passe très bien.
Mgr Mathieu Madega, l'évêque de Mouya au Gabon, il était interrogé par Fabrice Baguendekere. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera demain matin à 8h30 en direct de Rome. Et d'ici là, une seule information, un seul site, vaticannews.va. Excellente soirée à tous.